Bonjour et bienvenue dans le podcast « À la découverte de soi » de l'évêque Michel Ambourouet. Chaque semaine, vous y trouverez toutes les ressources essentielles pour favoriser le développement de votre relation avec le divin, avec vous-même et aussi avec les autres. Prenez une bonne inspiration et laissez-vous guider sur le chemin de votre transformation vers le leadership. Bonne écoute.
Alors, c'est l'apôtre Paul qui parle à Timothée et il utilise ce vocable « dans les derniers jours ». Ces mots se retrouvent aussi en Joël 2:28. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit. Ça veut dire qu'il y a pour l'Église, pour l'humanité, ce que Dieu appelle les derniers jours, une saison qu'il considère être la saison de la fin. Et par Joël, il indique que cette saison est la saison de l'esprit, où l'esprit a été répandu depuis la Pentecôte, et que nous vivons donc, nous, dans les derniers jours. Donc l'apôtre Paul dit à Timothée, l'une des choses auxquelles tu dois t'attendre dans les derniers jours, c'est les temps difficiles. Dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Ce que je veux que vous compreniez, c'est que les temps difficiles ne doivent plus nous surprendre. Nous devons nous attendre à vivre des temps difficiles. Est-ce que vous êtes là? Maintenant, si les temps difficiles vont arriver de toutes les façons, Dieu ne veut pas que parce qu'il y a des temps difficiles, tu échoues. Les temps difficiles ne sont pas une excuse pour l'échec, pour le malheur, pour le fait de survivre. Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Ça veut dire que même dans les temps difficiles, Dieu veut que tu sois dans l'abondance. La Bible dit donc, que les temps difficiles, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car, en d'autres termes, ce qui cause les temps difficiles dans les derniers jours, ce n'est pas la météo, ce n'est pas l'absence d'argent, ou ce n'est pas la présence de difficultés extérieures, c'est l'homme. Ça veut dire que les hommes créent des temps difficiles. Et les Saintes Écritures révèlent que dans les temps difficiles, il y aura un type d'individu que tu ne pourras pas éviter. Dans une certaine mesure, il y aura autour de toi, dans ton lieu de travail, des gens déloyaux, des fanfarons, des gens qui aiment l'argent plus que Dieu, le plaisir plus que Dieu, des gens orgueilleux, des traîtres, des gens qui ont l'apparence de la piété, mais qui renient ce qui en fait la force. Malgré ça, tu dois réussir. Ça veut dire que si tu es dans un environnement, la déloyauté des gens ne doit pas t'emmener à fuir l'environnement en mode « de toutes les façons, je ne peux pas réussir ici ». Certains d'entre vous, vous voulez migrer, partir du Gabon, fuir, pour aller en Côte d'Ivoire, pour aller au Ghana, pour aller en France, pour aller ailleurs. Mais là-bas aussi, il y a des temps difficiles. Pourquoi ? Parce que là-bas aussi, il y a l'homme. Est-ce que vous m'entendez ce matin? Donc, dans la logique qui est la tienne, tu dois shifter de telle sorte que tu ne sois plus influencé négativement par ce que les gens sont. Ce que tu es doit prendre le dessus sur ce qu'ils sont. Le sel de la terre, la lumière du monde, doit réussir au milieu des ténèbres. Est-ce que ça va? Ton voisin, ta voisine, encourage-la, dis-lui, tu dois réussir. En dépit des temps difficiles. Donc pendant les deux prochains mois, on vous parlera et on vous aidera. On vous donnera des clés, on vous indiquera selon nous quelles sont les choses que vous devez, selon nous, selon les Saintes Écritures, quelles sont les choses que vous devez avoir, accepter de recevoir, de comprendre pour réussir en temps difficile. Mais ce matin, je veux vous parler justement du temps. Le texte que j'ai lu avec vous est un texte troublant. Vous savez, comme je l'ai dit au premier culte, j'ai grandi dans une famille et aussi dans un environnement où on m'a indiqué que les hommes ne pleuraient pas. L'éducation parle des Bantous, on dit que les hommes ne pleurent pas. Vous avez entendu ça aussi, je suppose. Et lorsqu'un homme pleure, rapidement on l'arrête. Ça commence depuis l'enfance. Hein. Lorsqu'une fille, une jeune fille se cogne et qu'elle pleure, on dit c'est fini. Oh ma grande, ça va aller. Quand c'est un garçon qui se cogne, qui tombe, les hommes ne pleurent pas. Et ça paraît former l'homme, mais ce que ça contribue à faire, c'est que ça emmène l'homme à croire qu'il doit faire taire ses émotions. Il doit suppresser ce qu'il ressent, de telle sorte que même s'il le ressent, il ne doit pas l'exprimer. Je comprends que les émotions en elles-mêmes sont neutres. La tristesse, la joie, la colère, la peur. Ces émotions-là ne sont pas négatives, mais c'est comment nous les exprimons et comment nous les utilisons qui peut nous conduire à quelque chose de négatif. Par exemple, la Bible dit qu'il y a une tristesse qui conduit à la repentance. Ça veut dire qu'il y a une repentance qu'il n'est pas possible d'expérimenter sans au préalable, expérimenter la tristesse. Mais en même temps, il y a une tristesse qui conduit au suicide. Est-ce que vous voyez ? Donc le problème, ce n'est pas la tristesse, c'est vers où elle te conduit. Les femmes disent amen, vous comprenez la tristesse. Les hommes font genre. Okay. Pareil pour la colère. La Bible dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Ça veut dire que c'est possible de se mettre en colère sans pécher. Mais la Bible est quand même formelle. La colère de Dieu n'accomplit pas la justice. La colère des hommes n'accomplit pas la justice de Dieu. Ça veut dire que c'est possible de se mettre en colère et de gaspiller. Donc comment tu exprimes ta colère détermine si ce sera profitable à ton avantage ou pas. Est-ce que vous voyez? C'est pareil pour la joie, c'est pareil pour la peur. Pourquoi je vous en parle? Est-ce que je raconte cette histoire? Oui. On devait être en 98-99. Je devais avoir 17 ans, 16 ans. Et j'étais en train de regarder la télé, je m'en souviens comme si c'était hier, parce que ça m'a marqué. Je regardais la télé, je crois que c'était un dessin animé. Je regardais la télé et avec mon cousin, mon grand cousin. Et puis mon père est sorti de sa chambre en pleurant. Mon père était beaucoup plus grand que moi. Plus élancé que moi, mon père était, s'il était plus grand que moi. Ah, à l'époque, quand moi je regarde, mon père était, c'est-à-dire qu'à 17 ans, mon père était plus grand que moi. Mon père arrive, parce que pour moi, c'est mon père. C'est un costaud, c'est un barbu. C'est mon père. Et j'ai jamais vu pleurer mon père. Moi, à l'époque, j'avais jamais vu pleurer mon père. Donc mon père sort de la chambre, mais en larmes. Et je vois mon cousin qui était plus petit que lui. Peut-être là. Si moi je suis mon père, il était là. Donc je vois mon cousin qui prend mon père dans les bras. Mon grand cousin. Et mon père met sa tête sur son épaule et pleure comme un gamin. Donc je regarde mon père. Je suis choqué. Parce que l'homme, mon père, papa pleure. Bon, c'était pas un enseignement, assieds-toi, les hommes pleurent. Non, c'est que j'ai vu mon père pleurer et là j'ai compris que même les hommes pleuraient. Mais ce qu'il a fait pleurer ce jour-là, c'est qu'il venait d'avoir la nouvelle que sa mère qui était à Libreville venait de mourir. Et donc j'ai compris que les hommes pleurent souvent quand ils sont dans des situations extrêmes. Les femmes pleurent, elles ont mal. Elles pleurent, elles ont faim. Quand vous dites « Oh, est-ce que ça ne vous est pas arrivé d'avoir faim jusqu'aux larmes ?» C'est-à-dire que tu veux manger ce que tu veux manger, tu n'arrives pas à manger. Ils refusent d'aller acheter pour toi. Tu fais quoi ?
Si tu m'aimes, si tu...
La femme est enceinte, elle pleure. Elle accouche, elle voit le bébé, elle pleure. L'enfant voyage, elle pleure. L'enfant revient, elle pleure. L'enfant se marie, elle pleure. L'enfant donne naissance à un autre enfant. Bref, je ne parle pas des femmes, je parle de l'homme. Pourquoi je vous en parle? Parce que Il n'y a que deux versets dans la Bible où on vous dit que Jésus pleura. L'un de ces versets, Jésus est face à la tombe de son ami. Il vient de perdre un ami, Lazare. Où est-ce que vous l'avez mis? On le conduit à la tombe, Jésus voit, il pleure. Il pleure, mais il sait qu'il va le ressusciter. Émotionnellement, Jésus est touché dans son âme, il pleure. Mais cette fois-là, le texte qu'on a lu, Jésus ne pleure pas parce qu'il a perdu quelqu'un. Jésus vient d'être accueilli triomphalement. Il y a eu des acclamations, les gens ont jeté leurs vêtements. Jésus rentre dans Jérusalem. Quand il arrive dans Jérusalem, la Bible dit Jésus regarde la ville, il pleure. Jésus, c'est un homme, c'est pas juste un homme, c'est Dieu fait chair. Jésus pleure sur la ville. Imaginez vous rentrer dans une ville, un peu comme à Libreville, vous arrivez à l'aéroport, vous voyez les gens. Dès que vous voyez la ville, vous n'arrivez pas à vous retenir, vous commencez à éclater en sanglots. Et les gens vont vous demander, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu viens de voir? Et la Bible dit que Jésus ne s'arrête pas à pleurer, il parle. Certainement, pendant qu'il est en train... C'est toi au moins. Tu connaissais. Le jour qui t'est donné. Mais c'est caché devant tes yeux. Et il pleure. Il pleure sur une ville. Rassemblement d'individus. Il ne pleure pas sur les bâtiments. Il ne pleure pas sur l'infrastructure. Il pleure sur la ville sainte. La ville, la cité de David. Jérusalem. Et Jésus dit, en fait, on va te détruire. Toi et tes habitants. Parce que tu n'as pas connu le jour où tu as été visité. Écoutez-moi. Le monsieur qui pleure, le jeune homme qui pleure, est conscient que s'il prie et il parle à son père est capable d'envoyer des myriades d'anges. Le jeune homme qui pleure, pleure malgré le fait qu'il sait que quand lui il parle, les morts ressuscitent. Les paralytiques se lèvent et courent. Les aveugles voient. Vous connaissez le texte en Jérémie qui dit « Priez pour le bien de la ville où je vous ai mené en captivité. Parce que votre bonheur dépend du sien. » Vous êtes là? Ça veut dire que Dieu nous dit, par le prophète Jérémie, que quand vous êtes quelque part, quand vous rentrez dans une ville, priez pour la ville. Parce que si vous voulez être heureux, ça dépend du bonheur de la ville. Vous êtes là? Mon problème, c'est que Jésus ne prie pas. Jésus qui connaît les textes ne prie pas pour Jérusalem. Pourquoi? Parce que je suis convaincu qu'à ce moment, Jésus se dit, même la prière ne va pas changer ton état. Je vais vous dire ça différemment. Ça veut dire que Jésus sait qu'il y a des choses que même sa prière ne change pas. Jésus a prié pour Pierre. Pierre, j'ai prié pour toi, Simon. Aujourd'hui, on nous dit que Jésus est assis à la droite de Dieu le Père. Il intercède pour nous. Si le diable est l'accusateur des frères, Jésus est l'intercesseur des frères. Mais malgré le fait que Jésus intercède pour toi, il peut pleurer sur toi. Il peut pleurer sur Libreville. Pleurer sur le Gabon. Il ne pleure pas parce qu'il y a dans Jérusalem le péché qu'il y a à Sodome et Gomorre. Il pleure parce que Jérusalem ne reconnaît pas un jour, une saison, une période, un temps. Ça veut dire qu'il y a dans la vie des hommes, dans la vie d'une communauté, des saisons, des jours, des moments opportuns. Si nous les ratons, ils ne reviennent pas le lendemain. Est-ce que vous êtes là ce matin? Qu'est-ce que tu dis, évêque? J'essaye de te dire que les textes sont vrais. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Mais les bontés de demain ne sont pas les bontés d'aujourd'hui. Si tu manques les bontés d'aujourd'hui, les bontés que tu auras demain ne seront pas la copie conforme. Il y a donc des choses, quand tu les as ratées, parfois tu dois attendre 10 ans, 50 ans, pour qu'elles reviennent. J'étais assis là pendant que notre père parlait. L'évêque général nous enseignait, nous parlait sur le cœur. Je crois que Dieu ne parle jamais pour les absents. Je vais dire ça différemment. Je crois que quand Dieu parle, c'est pour être entendu. Et donc pendant que Dieu parlait, j'écoutais pour moi et j'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, miséricorde, fais-moi grâce. Oh Dieu, fais-moi grâce. Change mon cœur. Et puis comme je suis évêque et le berger de l'église, je vous regardais. Mais cherchez pas à voir vos visages, c'est vos cœurs. Et puis pendant qu'il parlait, j'entendais des cœurs qui disaient, ça c'est pas pour moi. En tout cas, moi je ne suis pas d'accord. Et je me dis, si on passe à côté du temps de la visitation, on est en danger. Jean 10, 10, si je ne m'abuse. Jean 10, 10, on peut mettre. Le voleur. Lisons 1, 2, 3. Le voleur. Je veux vous parler du temps, mais je veux poser un fondement. Je crois que je dirai un peu plus. Ce texte révèle, you can switch. Ce texte révèle que le voleur dérobe, en fait, vient pour voler, dérober, égorger et détruire. Ça veut dire que quand il vole, son objectif final, c'est la destruction. Il y a quatre choses dont je veux vous parler que le diable s'évertue à voler, se bat à dérober dans ta vie, dans la vie d'une communauté, dans nos vies. La première chose, ce sont la première, oui, chose, permettez-moi de dire ça, ce sont les choses, les biens. Par exemple, certaines personnes, vous remarquez que vous perdez souvent des biens, de l'argent, des bijoux, des affaires. Je veux que vous réalisiez que le diable en a après vos biens. Qui connaît l'histoire de la femme qui avait la perte de sang? Qui ne connaît pas? Ok, je vous raconte. Il y a une femme qui tombe malade. Normalement, on parle d'aménorrhée. Elle a des pertes sanguines communes à toutes les femmes. Pendant qu'elle commence à perdre du sang, c'est un jour, deux jours, trois jours. Il semble que ça dure entre 5 et 7 jours de manière générale pour les femmes. 3 et 7 jours. Alors, pendant qu'elle perd le sang, on arrive au 8e jour, elle est toujours en train de saigner. Le 10e jour, elle saigne toujours. Ça fait 2 semaines, elle continue de saigner. Ça fait 1 mois qu'elle saigne. Ça fait 1 mois et demi qu'elle saigne. Bon, normalement, dès le 8e jour, elle commence à se poser des questions. Et je crois que quand elle est arrivée à la 2e semaine, elle allait voir un docteur, son gynéco. Quand elle va voir le premier gynéco, vous savez que quand on va voir le gynéco, on paye. Pourquoi vous faites ça? Les hommes acceptent, les femmes savent. Voilà. Donc, elle va au premier rendez-vous, elle dépense de l'argent. Et puis, le premier gynéco lui donne un traitement, mais le sang ne s'arrête pas de couler. Donc, elle change de docteur. Ça fait 3 mois qu'elle saigne. Ça fait 4 mois qu'elle saigne. Ça fait 1 an qu'elle saigne. Ça fait 5 ans qu'elle saigne. Ça fait 10 ans qu'elle saigne. Quand elle rencontre Jésus, ça fait 12 ans qu'elle saigne. Maintenant, imaginez quelqu'un qui perd du sang tous les jours, sans arrêt, pendant 12 ans. Anémie sévère, etc. Mon problème, c'est que finalement, quand elle rencontre Jésus et que Jésus la guérit, suivez-moi s'il vous plaît, une petite fille meurt, qui elle est née le jour où elle a commencé à saigner. Et quand elle est guérie, le jour, la seconde où elle est guérie, on dit à Jésus, elle vient de mourir. Je ne peux pas m'empêcher de voir un lien entre le début du saignement et la naissance d'une fille. Mon problème, c'est que ce n'est pas ça, mon père, qui me dérange. Ce qui me dérange, c'est lorsque Jésus l'a guérie, je me rends compte que l'attaque du diable, ce n'était pas pour la tuer. Je me rends compte que ce que le voleur a pris sous couvert de sa santé, c'est son argent. Elle a dépensé tout son bien chez les docteurs. Je suis conscient qu'au-delà de l'argent, il y a le côté émotionnel. Elle est marquée émotionnellement, elle a honte, il y a tout ça qui vient avec. Mais quand Jésus l'a guérie, elle est guérie, mais elle est pauvre. Écoutez-moi, il faut que vous sachiez que lorsque le diable en a après vos finances, il va s'attaquer à votre santé. La santé n'est qu'une excuse pour t'appauvrir et t'affaiblir, pour que tu n'aies pas les moyens de ta politique, pour que tu ne puisses pas faire avec ton argent ce que Dieu veut que tu fasses. Ce n'est pas normal qu'à chaque fois que de l'argent rentre, il y a un accident de véhicule, qu'un enfant tombe malade. Ce n'est pas normal qu'à chaque fois que tu as une entrée financière, ton téléphone sonne pour qu'on te dise « Maman, tonton, papa, grand-père, quelqu'un vient de décéder. » Regarde quelqu'un, dis-lui « Ce n'est pas normal. » Ce n'est pas normal que quand tu commences à construire, révérend Guy, ceux qui se sont accordés avec toi sur la construction t'ont donné un budget. Au moment où tu commences à injecter l'argent, il y a un vol, il y a un détournement, il y a une intempérie. Quelque chose arrive de telle sorte que le budget ne soit jamais respecté. Tu te retrouves à dépenser toujours plus que ce que tu aurais dû dépenser. C'est le diable, c'est le voleur. Répète après moi, dis au nom de Jésus. Cette année, je refuse toute hémorragie financière. Regarde comment ton voisin dit Amen, ça m'énerve. On est en train de conduire. Je savais qu'il avait pris son conduit. Puis pendant qu'on sort du culte, un super culte en semaine, on rentre. Il y a quelqu'un qui vient, qui nous cogne et qui fuit. On le poursuit. On l'attrape. J'ai calmé la paix Brice. S'il voulait le taper. Récemment encore, il y a un autre accident. Et ce sont des petites choses qui coûtent de l'argent. Et c'est là où je me rends compte qu'en fait, prospérer, ce n'est pas juste avoir de l'argent. Vous savez, la Bible dit, on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Ça veut dire que si on te donne mais que tu n'as pas, tu ne peux pas connaître l'abondance. L'abondance, c'est l'accumulation de richesses. Il faut donc que ce que tu as ne parte pas. Sinon, tu ne fais que recommencer. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le voleur donc vient pour dérober des choses. La deuxième chose qu'il cherche à dérober, ce sont les relations. Les relations. Parce que j'ai compris que quand Dieu aime quelqu'un, il lui donne quelqu'un. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus. En fait, la monnaie d'échange du ciel, lorsque le ciel veut te bénir, le ciel te donne des relations, le ciel t'envoie des gens. La Bible dit en parlant de Jésus, Luc 2, 52, si je ne m'abuse. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Ça veut dire que si tu dois réussir sur la terre des vivants, la faveur avec Dieu ou devant Dieu n'est pas suffisante. Tu dois avoir faveur devant les hommes. Oh Dieu, aide-moi. Il faut que Dieu incline le cœur d'un roi en ta faveur. Il faut que le cœur de quelqu'un soit tourné vers toi. Maintenant le voleur, vient pour s'organiser de telle sorte que quand quelqu'un a décidé de te faire du bien, d'une manière ou d'une autre, son cœur tourne. Je reçois un appel il y a quelque temps, l'année dernière. On me dit, ok, je vais t'envoyer de l'argent. Moi, j'aime ce genre d'appel. On va t'envoyer de l'argent. Je dis, ok, l'argent arrive tel jour. C'est-à-dire que ça vous arrive quand vous avez des prévisions financières de commencer à faire des dépenses. Avant même que l'argent ne soit là, tu commences à planifier. L'argent doit arriver. L'argent n'est pas encore là, mais tu as déjà dit, bon, dès que ça arrive, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Parfois, tu as même la bouche. Tu commences à dire, bon, de toute façon, je te donne ton argent tel jour. Et donc, le jour où l'argent doit arriver, j'attends, j'interroge le compte, je regarde, l'argent ne vient pas. Bon, je me dis, j'ai regardé trop tôt. J'attends 2 heures, 3 heures, 4 heures, la demi-journée. J'attends la fin de la journée. L'argent ne vient pas. Je me dis, bon, la personne a dû oublier, ça arrive. Et puis, je ne veux pas rappeler. Le lendemain, l'argent n'est pas là. Le surlendemain, l'argent n'est pas là. La semaine est passée, l'argent n'est pas là. À un moment, je dis bonjour. Comment ça va là-bas? Est-ce que tu as bien dormi? Est-ce que je peux prier pour toi? La personne me dit, ça va, Dieu fait grâce. Dieu fait grâce comment? C'est-à-dire... Puis à un moment, je dis, bon, finalement, mais il n'y avait pas une transaction que tu devais faire. Si, mais, il y a des blocages. Oh, d'accord, je me tiens dans la prière. Les bassons, tout blocage contre mon argent. Ah, by thunder and by fire, I decree and declare. Et je me suis rendu compte qu'il y a des gens que Dieu nous envoie qui doivent nous prendre d'un point A à un point B. Et le voleur, celui qui dérobe, celui qui égorge, vient pour créer des déconnexions, des frustrations, des incompréhensions. Parce qu'il ne veut pas que là où tu dois aller, tu puisses y arriver. Parce que cette personne est peut-être un partenaire en destinée, c'est quelqu'un que Dieu t'a donné. Je pense que ça nous est arrivé quasiment à tous de regarder dans le rétroviseur de notre vie et de nous dire, et de se dire qu'on n'aurait pas dû perdre X, qu'on aurait dû mieux gérer Y. Mais sauf qu'il y a un diable qui en a après tes relations. C'est régulièrement que je reçois des couples dans mon bureau, et quand ils rentrent dans mon bureau, je vois parfois une épée entre eux, un vent entre eux. Et je me rends compte, je leur dis, je ne sais pas qu'est-ce qui vous arrive, mais je vois des incompréhensions. Je vois des disputes, je vois des problèmes. Et si ce n'est pas réglé, il y aura divorce. Les personnes, elles savent que je ne les connaisse pas, donc elles se disent, mais comment vous savez? Mais la vérité, c'est que c'est spirituel. Les esprits passent, le voleur passe par les émotions pour pouvoir créer des déconnexions. Il y a beaucoup de gens que j'ai connus dans cette vie. Quand je regarde où ils sont, ils ne sont pas là où Dieu veut qu'ils soient, parce qu'ils se sont déconnectés. Avoir Paul dans son navire sauve la vie. Avoir Jonas dans son bateau provoque la perte de la cargaison. Donc s'il y a des relations à préserver, il y en a d'autres dont il faut se déconnecter. Il y a des gens qu'il faut sortir de sa vie.
C'était À la découverte de soi, le podcast de l'évêque Michel Ambourouet. N'hésitez pas à utiliser chacune des ressources qui vous a été utile dans l'épisode que vous venez d'écouter. Et surtout, ne le gardez pas pour vous, partagez-le. Et rendez-vous sur michelambourouet.com pour encore plus de prédications et d'enseignements pleins de sagesse. À la découverte de soi vous est proposé par MA Organisation.